Pour répondre d'abord à la question des causes du bellicisme américain. Ça me paraît une question effectivement qui complète un petit peu le propos de tout à l'heure. Je crois que c'est une question pertinente et on est en droit de se demander, bon, mais pourquoi finalement cette administration américaine se comporte de telle manière? Je pense qu'elle le fait pour deux raisons. Je pense qu'elle le fait d'abord pour une raison idéologique. Parce que l'équipe qui aujourd'hui pilote les États-Unis autour du président Bush est une équipe très idéologique. C'est un groupe, disons, de fanatiques. Hein? C'est des talibans à l'américaine, finalement. Hein, c'est un groupe dont... D'ailleurs, nous préparons dans le monde diplomatique un document qui va être fait par un historien des idées américain, lui-même américain, et on va montrer comment ces gens-là, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz, Condoleezza Rice, etc., depuis 20 ans, publient des textes totalement délirants, demandant le redécoupage du Proche-Orient, expulsant par ici, rassemblant par là, enfin... Prenant le monde comme si c'était un gâteau, on le découpait comme une tarte. Hein? Mais il se trouve qu'ils sont au pouvoir. Hein? Personne ne pensait, parce que c'est des gens plus ou moins connus, quand on parle avec des Américains sérieux, et Dieu sait si nous en connaissons, profs d'université, intellectuels brillants, etc., jamais ils pouvaient imaginer que des hurluberlus pareils, qui défendaient des thèses dans des publications radicalement extrémistes, arriverait un jour au pouvoir. Or, ils sont au pouvoir. Rien n'est comparable, mais c'est un peu comme si Le Pen, avec sa bande de fous, était arrivé au pouvoir. Et puis, au pouvoir, à la tête de l'Empire. Et puis, à l'occasion du 11 septembre, s'il se voyait offert comme sur un plateau, la mise en pratique de leur délire. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, idéologiquement, c'est quoi? Globalement, idéologiquement, c'est ceci. Qu'est-ce qu'ils défendent? Eh bien, je vous renvoie toujours à ce document du 20 septembre, donc je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Ce qu'ils défendent, c'est très exactement cette idée que nous, on la voyait venir, hein, on avait dit à plusieurs reprises, finalement, la globalisation aujourd'hui, elle avance sur deux fronts. Elle avance sur deux fronts, c'est-à-dire elle avance sur un front économique, avec cette thèse qui consiste à dire « il n'y a qu'une solution ». Puisque l'autre solution s'est effondrée avec la chute du mur, il n'y a qu'une solution, c'est la solution libérale, que cette solution suppose l'application d'un certain nombre de règles de consignes, c'est-à-dire bon, le catalogue de tout ce que nous appelons la mondialisation, et il n'y a qu'une vérité économique, il n'y en a pas deux. Et comme tout le monde répète ça, à l'université, dans les médias, etc., et les gouvernants eux-mêmes, donc, cette idée a avancé sur le front économique d'abord. Avec l'aide, bien sûr, de l'OMC, qui est devenu d'ailleurs le cerveau, enfin le moteur, à la fois cerveau et moteur du monde, hein, et l'aide du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, bon, l'axe du mal, le vrai. Et donc l'idée, c'était que, d'une part, il y avait une offensive conduite sur le plan économique, hein, on dit au gouvernement, au pays, regardez l'Union européenne, avec, par exemple, la réduction du budget, on ne peut pas avoir de déficit budgétaire, c'est interdit, c'est interdit. Hein? Les monnaies ne doivent pas appartenir au gouvernement, donc pas appartenir à la démocratie ni au peuple. Il faut extraire la monnaie du périmètre de la démocratie, la transférer à une institution technique, hein? Comme on a fait en Europe, à la Banque Centrale Européenne. Quand on vote plus pour la monnaie, c'est fini, ça n'appartient pas à la politique. La monnaie, c'est trop sérieux pour l'abandonner à la démocratie et au peuple. Donc, tout ceci, ça s'est appliqué, d'une part, l'évangile économique, ça c'était un front. Et un front qui, quand même, s'est étendu, puisqu'il s'est répandu à peu près partout dans le monde. Le second front, c'était le front idéologique, au sens de la propagande, au sens de, justement, travailler les médias, travailler l'enseignement, l'éducation, configurer, finalement, disons, une sorte de discours, qui imprégnerait de telle manière les esprits qu'ils deviendraient naturels, qu'ils deviendraient vrais. Hein? Un peu comme quand Alain Minc disait « la pensée n'est pas unique, c'est la réalité qui est unique ». Vous vous souvenez? c'est à peu près ça. Hein? Finalement, c'est pas nous qui sommes néolibéraux, c'est la réalité qui est néolibérale. Hein? Une fois qu'on l'a bien façonnée pour qu'elle devienne néolibérale, bien sûr qu'elle est néolibérale. Hein? Mais il n'y a pas de construction humaine qui ne soit pas le résultat d'une architecture d'idées, un certain nombre, d'un échafaudage d'idées. Hein? Et donc, c'est une idéologie, et cette idéologie, elle a fini par imprégner les esprits, au point même que les gens, finalement, parlent néolibéral naturellement, pas comme l'autre parlait la prose. Alors ça, c'est un front capital, et on a vu l'importance que ça a pu avoir sur le front médiatique, sur le front de la propagande, etc. Depuis le 11 septembre, c'est un troisième front qui s'est ouvert, et qui est le front, je dirais, non seulement militaire, mais qui est le front répressif. C'est-à-dire cette idée, désormais, c'est celle, je disais tout à l'heure, qui est inscrite dans le document du 20 septembre, c'est l'idée que les États-Unis, désormais, sont le bras armé de la globalisation. C'est-à-dire la globalisation, désormais, si elle ne peut pas s'imposer parce qu'elle convainc qu'elle est la technique économique, hein, la plus efficace, la formule économique la plus efficace, si elle ne peut pas s'imposer parce que nous sommes tous persuadés que c'est dans cet esprit-là qu'on construira un monde libre et heureux, où on sera tous heureux et consommateurs, eh bien alors on va l'imposer par la force. Et donc l'objectif, c'est quand même d'imposer le libre-échange, le libre-commerce, d'ouvrir les marchés, etc. Évidemment accompagné dans le discours de Bush, accompagné de la démocratie, de régime libre, etc. Donc ça c'est la théorie idéologique. Hein. Et désormais, effectivement, les États-Unis se vivent, les forces armées des États-Unis sont le bras armé de la globalisation, on peut l'affirmer. Et en particulier, dans l'intérieur de ce bras armé, il y a l'OTAN aussi. Et donc, ça nous concerne, nous, personnellement. Le second aspect, ça c'est un aspect. Pourquoi sont-ils dans cette attitude? Ça, c'en est une. Il faut que le monde entier, finalement, s'abandonne à la mondialisation. Le deuxième objectif, bien sûr, pour la guerre d'Irak, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est le pétrole. Pourquoi? C'est très simple. Je crois même que c'est un objectif prioritaire. L'Irak possède, vous le savez, les secondes réserves, secondes ou troisièmes, ça dépend comment on les mesure par rapport à celles de la Russie, secondes réserves de pétrole du monde. Les États-Unis ne sont plus autosuffisants en pétrole, hein, sur leur territoire, ils l'ont été pendant très 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 longtemps. Si vous voulez, il y a encore 30 ans, les États-Unis produisaient sur leur propre sol à peu près, disons, 65%, 70% du pétrole qu'ils consommaient. Aujourd'hui, ils n'en produisent pas 45%. Donc, ils sont dépendants en grande majorité du pétrole extérieur. Et ses sources d'approvisionnement sont très diversifiées, ils se sont préoccupés de les diversifier. Certaines sont très proches et très contrôlées, comme le Mexique. Hein. Mais d'autres posent problème parce que les producteurs de pétrole se sont organisés au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Au sein de l'OPEP, il y a des pays qui sont axes du mal, l'Irak, l'Iran, par exemple, etc. D'autres pays avec lesquels les États-Unis ont de très mauvaises relations depuis très longtemps, la Libye, et un autre pays avec lequel les États-Unis sont depuis quelque temps en position de tension, c'est le Venezuela, hein, depuis qu'il y a le président Chavez. Et donc, ces pays, d'ailleurs, en plus, ont été les moteurs de l'OPEP, qui ont fait grimper le prix du pétrole à entre 22 et 25 dollars, parce que c'est un prix qui est indispensable pour voir conduire une politique sociale dans ces pays. Et les États-Unis estiment qu'ils sont dépendants, ils ne contrôlent pas les véritables sources du pétrole. En plus, il y a maintenant une crise avec l'Arabie Saoudite. Et donc, en contrôlant l'Irak, ce qu'ils feront probablement, c'est-à-dire s'ils font la guerre, ils la gagneront. S'ils la gagnent, ils contrôleront l'Irak, ils installeront une sorte de gouvernement sous leur contrôle ou de protectorat. Ils auront accès directement aux sources du pétrole. Et, bien entendu, de cette manière-là, ils pourront multiplier par 2 ou par 3 la production pétrolière de l'Irak et donc inonder le monde de pétrole et faire chuter les prix du pétrole. Actuellement, ils sont à 30 dollars. Ils peuvent les faire descendre à 5 dollars. Avec quoi, bien entendu, 5 dollars, ils relancent leur machine économique, bien sûr, facilement. parce que le pétrole baisse, et ce sera évidemment pour nous tous, on va en profiter aussi, mais ce sera une énorme catastrophe pour les pays très peuplés et qui vivent presque exclusivement du pétrole. Hein, l'Algérie, bien entendu, l'Indonésie, hein, le Nigeria, l'Angola, etc. Bon, ça va être une catastrophe internationale où encore la situation va s'aggraver, même dans des pays amis des États-Unis, comme le Mexique. Bon. Deuxièmement, cette situation-là, comme vous voyez, donc ça leur permet de faire d'une pierre deux coups. Hein. Ils font la guerre à l'Irak, ils se débarrassent de Saddam Hussein, ils ont